matin tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce lendemain de victoire des Braves d'Atlanta, champions de la Série mondiale 2021. Max, comment tu te sens ce matin?
Super bien. Quelle belle histoire. Je me suis couché un peu tard parce qu'on l'a écouté au complet. Vous voulez voir les cérémonies et tout ça. Fait que non, super bonne nouvelle. Belle histoire. Un lanceur partant qui fait 6 manches. C'est un événement. C'est rare que ça arrive. Fait qu'on en a profité. Sylvain, ça va bien?
Oui, très bien. Et lanceur partant, il aurait pu en faire 7 ou 8 même.
On ouais, avec était... l'avance qu'il y avait, ouais.
Ben oui, effectivement. Là, puis il restait dominant. C'est toujours un peu la même histoire. T'enlèves un lanceur dominant comme ça, il me semble que tu envoies un message à l'adversaire aussi de dire « Bon, bonne nouvelle, lui est sorti. On ne peut pas faire pire. Amène-moi n'importe qui d'autre, lui, on ne le frappe pas. »
Exact. Exact.
La relève des Braves était tellement efficace que ça, c'est fini. Will Smith n'a aucun blow. Blow save. Il a 6 apparitions, 6 saves. Hier, c'était sa 7e, mais ce n'était pas une situation de victoire protégée, mais quand même, aucun point accordé. Merci, bonsoir, on ferme les livres. C'était parfait, c'était bien géré. Puis d'ailleurs, le gérant, là, je pense que l'histoire est incroyable. Là. Ça fait,
Snedeker?
Oui, ça faisait une couple d'années. Il a toujours été dans l'organisation des Braves d'Atlanta. Il n'est pas allé ailleurs, il a joué là. Il a coaché là, je pense que ça fait 45 ans qu'il est avec les Braves d'Atlanta. C'est exceptionnel. J'avais les stats sous les yeux, là, je l'ai enlevé, mais il a toujours été dans l'organisation. Il a coaché dans le mineur, il a été manager dans le mineur, il a joué dans le mineur avec les Braves, toujours, toujours. Là, il est en chef, gagne la Série mondiale. Quelle belle histoire.
Puis Claude Raymond a sorti une histoire, je pense, la semaine dernière à propos de Snedeker et Hank Aaron. Ce serait Hank Aaron qui l'a poussé vers le coaching, en fait.
Bonne décision. Ouais.
Papa, oui.
Effectivement. Il y a Sylvain, des joueurs aussi.
Ouais, mmh. Sylvain, est-ce que tu connais Alex Antopoulos personnellement? Parce qu'il a quand même été avec les Expos une bonne partie pour monter les échelons. Je ne sais pas si tu as eu une relation à l'époque avec lui.
Hein? Écoute, j'en ai eu une relation ou une connaissance, disons, assez particulière. C'est que à l'époque, dans les années 90, j'avais des écoles de baseball avec Alex Agostino, qui est recruteur avec les Phillies de Philadelphie, que tout le monde connaît bien dans le milieu du baseball québécois. Puis avec Alex, une de nos écoles de baseball, bien, il y avait comme un dénouement qu'on faisait en Floride au mois d'avril, puisqu'on emmenait les kids pendant une semaine de nos écoles, puis on faisait un camp de perfectionnement en Floride. Puis Alex, qui était à ce moment-là, travaillait pour l'organisation des Expos, mais à titre de gopher, on peut dire.
Ouais, c'est ça.
Go for this, go for that, là. Il faisait un peu de tout. Ben, c'est lui qui tournait les boulettes de nos hamburgers lors du midi. Donc, il s'occupait de la bouffe, il donnait un coup de main dans notre école. Fait qu'on s'est serré la main comme ça. Bonjour, comment ça va? Puis, il a passé à tourner les boulettes de burgers dans nos écoles de baseball à GM des Braves d'Atlanta, champion des séries mondiales.
C'est une belle anecdote, ça, quand même.
Ouais, ben, belle progression, surtout.
Plus pas pire.
Un bon synopsis de film, là. On part avec ça.
Oui. Il y a de belles histoires à Atlanta depuis hier, effectivement.
Ouais.
Toi, Max, non, oui.
Non, jamais.
Là, ça veut dire jamais.
Ouais. Trop jeune, Max.
Ouais, je suis trop jeune. J'étais encore jeune, moi.
Ouais, j'aime le moi.
Ça de même.
La gueule, moi.
Sylvain, une troisième chronique avec nous cette année. Là, on va dans une direction qui est sensible, à mon avis, là, à plusieurs niveaux, mais je vais le poser sous forme de question, comme tu m'as envoyé. Le baseball, un sport de chiffres, vraiment? Je te laisse.
Ben, écoute, c'est sûr que de tous les sports, je pense que c'est de loin le sport où que les chiffres sont les plus révélateurs ou qu'on en collectionne le plus. Écoute, mes années comme analyste avec les Blue Jays, on recevait un fil de presse, GF, là, qui était à peu près épais comme ça. Puis dans le fil de presse, là, il y avait tellement tout. Le frappeur frappe 373, il est parti le jour. Le soir, il frappe 212. Il frappe tant avec sa femme des estrades. Donc, je n'ai pas de quoi, là, mais tu sais, il y avait des stats incroyables sur le terrain naturel. Il frappe telle moyenne, ça, synthétique. Assez qu'à un moment donné, tu es plus chat, puis il y a tellement de chiffres que tu sais même plus qu'est-ce qu'il va le dire. Puis les gens ont été habitués de se faire nourrir de chiffres comme ça, puis tout le monde sait qu'un frappeur de 300, on parle parmi les meilleurs frappeurs du baseball majeur. On sait qu'une moyenne de points mérités en bas de 3 maintenant, c'est comme wow, incroyable, tout ça. Mais ces chiffres-là, dans notre population, surtout pour nos jeunes joueurs de baseball, les parents aiment beaucoup les avoir et les manipuler alors qu'ils n'ont pas de signification pour nous. Puis un bel exemple que je peux te donner, on a reçu récemment un papa super fâché de l'Ontario qui a envoyé à toutes les têtes dirigeantes des fédérations au pays une réquisition, un mécontentement à l'effet que son kid n'a pas été retenu. Il n'a même pas été invité à l'équipe de Team Canada Junior 18 ans et moins, qui n'a pas été invité. Lui, il était sans connaissance. Il dit, mon fils s'en va dans... Il joue pour un traveling team aux États-Unis. Il a fait tel tournoi, il a frappé 364. Il a fait tel autre tournoi, il a frappé 320. Donc, je ne comprends pas qu'avec la moindre bâton qu'il a, qu'il ne reçoive pas d'invitation de la part de l'équipe nationale pour être là. Et c'était typique à un discours qu'on a quand vient le temps de faire une équipe du Québec. Quand on a la classique Claude Raymond, on prend le temps d'expliquer aux parents que ces stats-là, pour qu'ils puissent parler, ben, faut qu'il y en ait plusieurs. De dire qu'on a un frappeur de 333 devant nous, wow! Mais quand on décortique le 333, il y a un coup sûr en trois apparitions au bâton, ça fait pas de lui un super bon frappeur. Ouais. Puis, un autre bel exemple que je me souviens d'avoir argumenté avec un papa avec son fils qui me disait que dans un championnat canadien donné, son gars a été le meilleur frappeur de l'équipe, etc. Puis, à la fin de tous les championnats canadiens, moi, je discute avec les entraîneurs, disais, bon, qui s'est illustré, qui a bien fait dans le tournoi, qui était un peu décevant, etc., lequel a eu une bonne attitude, un autre qui a une moins bonne attitude. Pour connaître les joueurs le plus possible, puis être capable de, par la suite, de faire une évolution avec ces joueurs-là. Puis, le joueur en question, c'est un joueur qui lançait, frappait, donc on lui a fait faire les deux pendant le tournoi. Puis le père était très déçu qu'il ait participé au bâton offensivement seulement à deux ou trois parties parce que dans le tournoi, puisqu'il disait qu'il a fini le meilleur frappeur de l'équipe ou le deuxième. Bref, il a frappé 400 dans le tournoi. Bon, quand c'est OK, ça m'interroge parce que justement, dans le recap du tournoi, le coach m'en a pas parlé du tout comme quoi que c'était illustré. Que je m'envoie les stats sur le site de Baseball Canada, je regarde comme il faut. Puis effectivement, le kid a frappé 4 coups sûrs en 10 apparitions au bâton, 400. Il était le premier frappeur meilleure moyenne de l'équipe, tout ça. Mais après ça, quand tu t'en vas décortiquer, JF, un peu plus les chiffres, ben là, tu te rends compte qu'une des parties contre qui l'équipe du Québec avait joué, c'était la nouvelle l'île du Prince-Édouard. Bon, c'est la population de la ville de Longueuil, à peu près, là. Donc, c'est sûr qu'on fait un championnat canadien. Normalement, la formation de l'île du Prince-Édouard, c'est pas wow, là. C'est pas une grosse équipe, etc. Donc, il y a bien des chances que cette équipe-là a possiblement les lanceurs les plus faibles de l'événement. Donc, notre fameux kid en question a eu 4 coups sûrs en 4 présences au bâton contre les lanceurs lors de ce match-là. Le coach le fait jouer lors de ce match-là parce qu'il était considéré comme parmi les frappeurs les plus faibles de notre équipe. Donc, lui donner des présences au bâton, on l'a fait jouer. Il a 4 coups sûrs en 4, bravo. Puis, il y a 5 retraits au bâton puis un roulant comme dans ses autres retraits. Il n'a pas touché au puck, comme on dit, dans le restant de ses présences au bâton. Donc, on l'a fait lancer aussi, puis il s'est bien débrouillé mon tuyau, tout ça. Mais bref, je veux juste te mentionner que le fameux 400 de moyenne dans un tournoi, mais ça ne veut absolument rien dire. C'est de savoir contre qui les a frappés, puis c'est-tu une ligue homogène qu'on peut comparer. C'est sûr, dans les majeures, avec 500 apparitions au bâton dans une année, avec le même genre de calibre que tout le monde s'affronte, c'est sûr les chiffres finissent par parler. Mais à notre niveau, à nous, c'est très symbolique. Ces chiffres-là ne veulent pas dire grand-chose. Puis,
ouais.
Je vais laisser parler Max là-dessus, mais comme coach de l'ABC, on a plusieurs collèges américains qui s'intéressent à nos joueurs. Puis Max, est-ce qu'il te demande souvent des stats par rapport aux joueurs?
C'est rare qu'on me demande des stats, mais moi... De la façon que je gère cette situation-là, c'est que je change de sujet à toutes les fois qu'on me parle de statistiques. Que ce soit une maman qui me parle de son jeune moustique ou que ce soit un jeune bantam, ou ça n'a tellement pas rapport. Puis ça me rappelle, puis je me rappelle tout le temps à mon voyage avec l'équipe nationale en 2013, on avait Jeff Garon qui était frappeur. Il a frappé aucun coup sûr du voyage, mais c'était le All-Star au bat. Juste par la qualité de ses présences au bâton, les fausses balles qu'il faisait, il allait avoir 6, 7, 8 lancés à chaque lanceur, puis on affrontait des lanceurs, des ligues mineures, des Braves, des Astros. Il n'a pas frappé un coup sûr, là. Il n'a pas frappé un coup sûr. Il y en a d'autres qui ont eu des coups sûrs, ça se prend bien été, mais tous les coachs parlaient de Jeff Garon qui se battait, puis qu'il y avait des at-bats qui étaient compétitifs, puis qu'au prochain niveau, il va pouvoir faire de quoi. Puis tout le monde était excité du fait que ses présences laissaient présager que plus tard, il allait être il y a un meilleur compétiteur, puis il allait être capable de se faire un poste dans l'alignement. Donc, ça va au-delà de « Hey, j'ai un coup sûr, on s'en sac du coup sûr. » C'est un rollover entre le shortstop et le troisième but. Shortstop n'a pas eu assez de bras pour te retirer. Marqueur a marqué un coup sûr. Ça ne veut absolument rien dire. J'ai 0 en 4, j'ai frappé 4 balles à clôture.
Exact.
Puis elle a voyagé, elle a fait 300, 330 pieds, mais elle n'a juste pas sorti. Là, tu me prouves que tu es un frappeur. Là. Tu frappes la balle, elle voyage, elle fait un bout. Frapper un coup sûr pour moi, là, hey, ça ne veut tellement rien dire. Puis ça, c'est le combat qu'on a avec les joueurs à toutes les années. On s'en va là, on frappe une line drive d'un mètre shortstop, il ne bouge pas, ça claque dans le gant. C'est un super bon contact. Le lanceur ne t'a pas battu. Tu as eu un contact franc, mais tu es 0 en 1. Mais quand tu reviens au banc, dans mon livre à moi, tu es 1 en 1. Là. Ça veut dire que tu es hot. Ça veut dire que le prochain match, tu vas être dans l'alignement. Là. Pourquoi? Tu frappes la balle d'aplomb. Moi, c'est le même, je regarde ça. Combien de pitches tu as vu? Est-ce que le lanceur s'est débarrassé de toi facilement? Est-ce que tu as été compétiteur? C'est ça qui fait la vraie valeur d'un frappeur. Bien plus que, hey, j'ai toujours frappé en haut de 300. Toujours frappé en haut de 300. Tu n'as pas d'approche au bat. Tu vaches dans la balle et tu affrontes des gars qui sont plus faibles que toi. So what? Ça ne change rien. Ça ne laisse pas croire que tu vas atteindre les ligues majeures à cause de ça.
Dans le baseball de développement, est-ce qu'on ne devrait pas mettre l'emphase? Je vois Daniel Brodeur qui marque ça, puis j'allais là, mais au niveau des lanceurs, on parle beaucoup de quality start. Est-ce qu'on devrait parler de quality at-bat beaucoup plus dans le baseball de développement?
Ça se calcule.
Un peu comme tu y vas. C'est ça, mais
ça se calcule dans le baseball majeur, mais non, c'est ça. Il faut changer cette approche-là parce que dans le baseball mineur, tu le vois, là, mon gars, il est 2-3, ou le monde parle de statistiques, bien plus d'approche au bat, mais c'est quelque chose qui est moins connu. T'écoutes la télé, t'écoutes soit TVA, RDS ou Sportsnet, ils en parlent moins de quality at-bat, ils parlent de war, de moyenne au bâton, de circuit. Mais en réalité, là, jusqu'à midget, c'est quality at-bat. C'est quoi la façon que tu te présentes au bâton puis que tu travailles ton at-bat, c'est ça qui compte le plus. Là.
Ben oui, parce que pour reprendre l'exemple de Garon tantôt, Max, c'est le coaching staff qui connaît la valeur des élèves puis il reconnaît les qualités de Jeff à ce moment-là, on va simplement dire, OK, il est à 2 mm d'être une bête au bâton. C'est ça qu'on va dire. On va, tu sais, tandis que l'autre qui réussit à avoir un coup sûr entre l'arrêt court puis le troisième but et la balle qui a des yeux qui se faufilent puis il s'est fait jammer, il n'a pas frappé à bonne place sur le bâton, on se dit juste qu'à un niveau supérieur, le lanceur va casser son bat. C'est ce qu'on dit. Un coup sûr, mais c'est tellement pas significatif. Puis, quand tu parlais de parents, Max, je me souviens d'avoir vu sous mes yeux un parent venir en arrière de l'arrêt balle, engueuler le marqueur, puisqu'on avait mis, on n'avait pas mis un coup sûr à son fils, puis c'était une erreur. Puis, à partir de l'événement de la classique Claude Raymond, nous, on formait aussi nos équipes du Québec suite à cet événement-là. Mais pour ce monsieur-là, il pensait, je sais pas, il pensait possiblement que les 10 meilleurs frappeurs du tournoi, il y a un billet d'avion puis on les amène au chemin des Canadiens automatiquement, j'imagine. Tu sais, on va regarder là, un événement comme ça, on va regarder les stats après l'événement, juste pour être sûr qu'on n'a pas quelqu'un qu'on n'aurait pas vu, qu'on aurait oublié, qu'on se promène d'un terrain à l'autre, les superviseurs, on regarde, puis on va regarder ça, puis lui a frappé 7 en 11, mon Dieu, bon tournoi. Puis là, on regarde dans nos feuilles, on regarde comme il faut. Non, OK, non. Non, pour un niveau élevé, son bat est en retard. OK, quand il a affronté tel ou tel lanceur, il était vraiment pas proche de l'affronter. On s'en va au Canadien. C'est ce type de lanceur-là qu'on va affronter. Malheureusement, il sera pas capable de se débrouiller ou on pense qu'il va arriver, il va s'ajuster, mais trop tard, le tournoi va être fini, genre. C'est un peu cette appellation-là.
Exact. Il faut faire attention aussi quand c'est pour une année de développement, une année complète comme à l'ABC ou pour un événement d'une semaine. Un événement d'une semaine, je te donne un exemple. Il y a une année qu'on avait coupé un super bon shortstop avec qui que je travaillais à De Mortagne. Il était capable de draguer, il courait vite. Il avait des bonnes mains défensivement, il était bon. Il n'était pas 100% fiable, mais il était bon. Un bon joueur de baseball. Là, qu'il aurait pu, une année normale, il aurait pu faire l'équipe des Ailes du Québec. Mais en avant de lui, il y avait Charles Leblanc qui était avec les Rangers. Abraham Taureau qui joue dans le pro, puis Louis-Philippe Pelletier qui est à l'équipe nationale puis qui a été repêché deux fois. Il n'est pas mauvais, mon ami avec qui je travaillais, sauf qu'on a trois studs en avant de lui, il n'y a pas de place. J'ai bien beau t'amener, là, je vais prendre un lanceur à la place. je vais prendre un lanceur supplémentaire parce que ces trois gars-là, c'est trois chevals de course qui vont frapper dans le cœur de line-up puis qui vont jouer défensivement. Puis là, l'autre joueur de milieu de terrain que je vais prendre, là, ça va être un gars qui est peut-être nécessairement pas très bon au bâton, mais que quand la balle va être frappée à lui, là, il va faire tous les jeux défensifs. Fait que là, je me sécurise défensivement, puis au bâton, je suis encadré. Ça ne veut pas dire que le gars que je n'ai pas choisi n'est pas bon, mais tu regardes la compétition avec laquelle que tu te prépares pour une semaine d'événement, le gars, malheureusement, il est trop bon en avant de toi présentement pour te faire une place. Donc, il y a aussi cet élément-là, il faut regarder, tu as beau frapper 700, les 3-4 gars en avant de toi sont trop bons. Fait que ça ne changera rien que tu frappes 700 ou 800, il est meilleur que toi en avant de toi. C'est le même dans le baseball pro aussi. Là.
Ben oui, faire du pouce là-dessus. Max, mon exemple du monsieur d'Ontario qui se plaignait que son fils n'a pas été sélectionné, tout ça. Ben, il y avait des. J'étais allé voir sur j'ai pris le nom du kid, puis je l'ai mis sur Google pour savoir un petit peu d'informations lors de tournois aux États-Unis. Puis effectivement, on le voit. Puis on le voit s'élancer au bâton. Son élan est beaucoup trop long, mais regarde, on peut se débrouiller avec ça. Mais c'est un receveur, il lance à 74 000 à l'heure, donc il n'y a pas de bras vraiment pour un niveau supérieur. Ensuite, il court 7,8 le 60 verges. Donc, automatiquement, la seule position qu'il peut jouer, il est trop lent. C'est receveur, premier but peut-être, puis il semblait un peu court, mais là, je ne le voyais pas avec les restants des joueurs. Ça veut dire que lui, pour accéder à un niveau supérieur, vu qu'il n'y a pas de bras et il ne court pas, il faut qu'il soit un monstre au bâton. Il faut qu'il frappe des rockets comme Solar hier qui a frappé la balle en dehors du stade. Et il est condamné à frapper, mais d'une façon outrageuse par rapport aux autres joueurs de son groupe d'âge, s'il veut passer. Fait qu'en plus d'avoir des stats qui ne sont pas révélatrices, ben en plus que son profil de joueur fait en sorte qu'il est condamné à être vraiment le meilleur dans ce département-là. Donc, ouais, ça aussi, ça va plus loin que rien qui est stats.
Exact. Puis, tu sais, ça, c'est un débat qu'on a avec les parents, particulièrement avec l'équipe nationale. C'est qu'il faut savoir d'un océan à l'autre, ils ont l'air de quoi, les autres catchers. Puis, présentement, au Canada, la position qu'on n'a pas de problème, c'est receveur. On a un super bon ici au Québec, Dayton Lachance, qui est parmi les deux, trois meilleurs receveurs du pays. Puis quand tu regardes en Ontario puis à BC, sont loadés, sont complets de super bons receveurs. Donc, quand tout arrive avec ton 74 000 à l'heure, battre un peu long, jusqu'au 7-8, tu n'amènes rien sur la table. Par les années passées, là, si tu voulais être receveur à l'équipe nationale, il faut que tu sois capable de frapper 3, 4, 5 dans le line-up. Tu as un gun. Puis tu attrapes la balle comme un dieu. Fait que si tu n'as pas ces trois éléments-là, ou du moins deux des trois éléments, merci, bonsoir, tu n'as aucune chance de faire l'équipe nationale. Puis c'est correct, parce que c'est la crème de la crème, puis c'est un traitement VIP, puis il faut que tu sois le meilleur pour être là. Tu sais, les gars qui sont revenus, là, ils ont compris c'était quoi l'équipe nationale, puis c'est à ton tour d'y aller. Non, c'est pas à ton tour. Mérites-tu d'y aller? Ouais, vas-y.
C'est pas un walk in the park, là.
Ben non. Puis la compétition est féroce aussi, là.
Puis dans les autres stats, Jeff, qu'il faut tenir compte, il y a des stats qui sont peut-être révélatrices dans le pro, mais dans le baseball amateur, pas du tout. Puis un bel exemple, c'est la moyenne de points mérités d'un lanceur. Ouais. Si on regarde la moyenne de points mérités d'un lanceur, un retrait, deux retraits, personne ne sait le but, tout va bien, roulant au deuxième but, on échappe la balle. OK, erreur. Après ça, j'accorde 7 circuits consécutifs, 7 points. Il n'a aucun mérité dans le baseball pro. Parce que le troisième retrait a dû être fait et la manche aurait dû être finie. Fin de la discussion, les stats ne rentrent pas, puis c'est correct. Mais dans notre monde à nous, qui a beaucoup plus d'erreurs que le baseball professionnel, que les erreurs font partie de la game beaucoup plus que dans le pro, ça veut dire que la moyenne de points mérités de nos lanceurs, elle serait presque toujours en bas de 2 avec le nombre d'erreurs qu'il y a dans une manche possible. Ben, ça ne veut absolument rien dire. Là. Fait que c'est pour ça que des stats comme le whip, là, je ne sais pas comment le traduire en français.
Les buts sur balle plus les coups sûrs divisés par le nombre de manches lancées.
Donc, c'est le nombre de coureurs qui appartient. C'est la faute du lanceur s'ils sont sur les buts. Ouais. À part les by-pitch, que je ne comprends pas pourquoi ils ne rentrent pas dans cette stats-là, mais ça, c'est un.
Ils doivent rentrer dans le walk d'habitude. Là. Ils rentrent dans le but sur balle. C'est le nombre de joueurs qui embarquent ses buts à chaque fois que tu lances une manche. Donc, quand on est à 1.
Mais pas les erreurs. Les erreurs sont comptabilisées. Non, c'est non. Ça. Donc, c'est la faute du pitcher en réalité. Il y a encore un coup sûr, il a atteint but sur balle, etc. Donc, moi, je trouve que c'est la stats qui parle le plus. Parce que tu es capable de dire qu'en moyenne, ce lanceur-là, quand il se présente au monticule dans le baseball amateur ou même dans le baseball professionnel aussi, c'est la même chose, ben, il y a toujours 1,5 coureurs qui sont ses buts à toutes les fois qu'il lance. Ou il y a deux coureurs qui sont ses buts à toutes les fois qu'il lance.
Ah, t'as raison, c'est révélateur. C'est combien de trafic qu'on va gérer aujourd'hui. Si t'as un whip de deux, là, ça veut dire qu'on va avoir un go premier, un go deux à toutes les fois. T'es-tu bon pour gérer les coureurs au deuxième but? Ça, c'est ça la question que tu te poses. Puis avant de décider un partant dans un tournoi ou dans un événement important, ben, tu regardes justement le whip. Lui, il en dit long. Même si tu as une moyenne de points mérités de 5, si ton whip t'as 1, 5, là, c'est peut-être deux mauvaises sorties que tu as eues ou une erreur qui n'a pas été comptabilisée en erreur. La manche a ouvert, tu n'as pas été capable de la finir. Mais overall, si tu es à 1,5 de whip, tu es en business. Là. Il n'y aura pas assez de trafic pour te faire mal.
Max Rolber, tu sais, il peut accorder en un tiers de manche un circuit de 2 points. Il y a 2 points mérités en un tiers de manche. Ça en prend beaucoup de tiers de manche avant de récupérer la moyenne de points mérités. C'est pour ça que dans le Baseball Pro, même quand tu vois les stats d'un lanceur de relève qui arrive, il en parle, mais il effleure le sujet de la moyenne de points mérités parce que justement, elle n'est pas révélatrice, parce qu'il n'y a pas le temps d'effacer une mauvaise manche qui va arriver une fois en 8 présences, 7 présences. Mais elle est très lourde au niveau des chiffres. Là. Donc, ça fait partie des chiffres que tu te dis, OK, moyenne de points mérités, ouais, est en bas de 3 pour un lanceur midget 3, pour un lanceur Bantam 2A, etc. Ça veut rien dire. Là. On n'a pas de.
Est-ce que je vous lance là-dessus, là, mais est-ce que ce ne serait pas notre responsabilité comme fédération de peut-être gérer ce genre de stats-là, de mettre de l'avant le whip, de mettre de l'avant les quality at-bat, les quality start, juste de mettre ça en façade et non de mettre des moyennes au bâton à travers les ligues? Pour les parents, c'est sûr qu'il y en a qui calculent ça eux-mêmes, là, mais est-ce que c'est pas à nous de rendre ça beaucoup plus vivant, beaucoup plus important, d'informer les gens? C'est quoi? Il y a peut-être des parents qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui savent même pas c'est quoi un whip actuellement, puis qui se demandent, ah ouais, c'est, tu sais, mais c'est super important le whip, là. Puis les qualités de bat, tout ça.
Ceux qui calculent les statistiques, tu n'échangeras pas. Ça c'est non, ça, définitif.
Mais, à moins qu'ils ne voient pas, Max.
À moins qu'on soit en Floride.
C'est ça. Ouais.
Mais de base, tu n'échangeras pas. Le gars qui prend les statistiques, puis qui marque tout, puis qu'il s'en va stiner le marqueur parce que lui, il n'a pas vu d'erreur, puis le marqueur a mis vu une erreur, là. Ça, tu n'échangeras pas. Mais effectivement, je pense qu'il faut le mettre de l'avant. Puis de plus en plus, dans les cliniques de bâton qu'on donne, soit aux conventions des entraîneurs, où on en parle de quality at bat, on parle de l'approche qu'on a, puis qu'est-ce qui est révélateur pour nous, bien plus que. Une moyenne au bâton, le nombre de circuits ou peu importe. Fait que je pense qu'effectivement, il y a une job à faire de ce côté-là, mais elle est déjà amorcée, particulièrement avec nos joueurs, mais il faut que notre jeunesse soit encore plus au courant de ça, bien plus que. Parce qu'encore là, au niveau mental, ça joue sur nos joueurs de j'ai pas de coup sûr. OK, t'as pas de coup sûr. C'est quoi t'as de la qualité de tes présences au bâton? On est-tu à la bonne place? Tu fais-tu déjouer? Si tu trois pitches, tu viens te rasseoir? C'est quoi? Tu t'en vas-tu loin dans le compte? T'as-tu des bons contacts? C'est tout le temps ça qu'il faut changer, puis qui est un débat, puis qui draine de l'énergie en tant qu'entraîneur, parce que tu ne veux pas que ton gars il coule. Si ton gars il coule, à un moment donné, tu ne peux plus le récupérer, puis là, tu as un mois et demi à travailler avec lui en haute compétition. Si tu le perds pendant un mois, tu viens de perdre un été complet pour lui. Là. Fait que c'est à recommencer, mais je pense qu'il faut effectivement mettre ça dans l'emphase là-dessus au niveau mineur. Même dans le PWI 2A, Bantam 2A, je pense que c'est là que ça doit se passer.
Ben, le discours des parents aussi, c'est les parents, un, il faut les informer, qui le père, la mère qui s'en va chercher son fils. Puis aujourd'hui, si bien été, ah oui, 2 en 4. À ce moment-là, 2 en 4, OK, ça a bien été, je conclue que ça a bien été, puis quand tu as 0 en 4, je conclue que ça a mal été. Fait que ce discours-là, il devient pas fin, il devient pas bon parce qu'il en perd le frappeur. Parce que là, tu te dis que OK, j'ai une moyenne au bâton, ça veut dire que si j'ai 0 à 1 au début du match, non, aujourd'hui, il faut que j'aie 3 en 3 pour monter ma moyenne collective, tout ça. On ne la regarde pas, puis c'est le discours qu'on a avec nos parents, c'est le discours qu'on a quand on présente la FLC Claude Raymond, c'est que nous, on va regarder les stats juste pour être sûr. C'est sûr qu'un frappeur, Jeff, qui joue, qui frappe dans le 3A, puis qui frappe 400, puis un autre qui frappe 185, on n'est pas à la même place. La photo est différente. On a un meilleur frappeur, on en a un plus faible, c'est clair et certain, on ne se trompe pas. Encore là, s'il y a assez de présence au bâton, justifie ça. Si c'est un jeune de 15 ans versus un jeune de 17 ans, c'est différent aussi. Bref, il y a plein de choses à considérer. Mais au final, quand Greg Hamilton, le coach de Team Canada, nous parle d'un joueur ou qu'on y va à tel joueur, on dit lui, on va parler de la vitesse de son bâton, on va parler de la vitesse de son bras, comment il court. Jamais on va dire, hey Greg, il a frappé 402 dans la ligue. Jamais, jamais on prononce ça. Puis jamais il nous demande ça. Jamais il nous achète avec ça. Puis quand un coach de collège américain, il nous demande des conseils après avec un de nos joueurs, bien, on va y vendre qu'est-ce qu'il est capable de produire en frais de vélocité, de vitesse, de course. C'est un bon kit, il est facile à coacher, blablabla. Ça va des. Mais jamais le coach du collège américain dit, dans sa ligue, il frappe combien? On se fait jamais, jamais poser ça. Il s'en fout comme l'an 40. Il va nous demander, can he compete? Il compétitionne-tu bien? C'est notre réponse qui va emmener ça. Puis un frappeur, bien, je reprends l'exemple de Jeff Garon, Max mentionnait tantôt. Il peut avoir eu 0 en 13 dans l'événement, tout ça, puis il a eu des bonnes présences au bâton, il est resté positif, il est resté sharp. OK, il compétitionne ce qu'il y a de là. Malgré son 0 en 13, il s'en va là, puis tu as confiance que ça va. On est à 1 ou 2 mm de produire, comme je disais tantôt. C'est ça qu'il va nous demander. T'sais. Je te dirais que même le baseball pro, il y a des dépisteurs qui s'intéressent à nos gars, mais jamais ils vont se retourner sur leur carte de sur leurs cartes qui font le rapport, qui font à leur équipe en disant « Ah, lui, dans le média de 3, il a frappé 375, il va faire rire de lui. »
Oui, c'est ça.
Jamais
il y a ça.
Il a frappé 500 à l'ABC, il va faire rire de lui. On ne verra jamais ça. Mais si nous autres, ce n'est pas important pour nous, comment toi, comme parent, avec ton kid de 13 ans, tu peux lui donner de l'importance? Quand nous autres, on n'en donne pas de l'importance.
Bien, moi, personnellement, je pense qu'on donne beaucoup d'importance aux professionnels. Dans le sens que, eux, les statistiques, c'est money, là, c'est les contrats, c'est de l'argent. Ben un oui. receveur d'un majeur, un des meilleurs receveurs, Maldonado, qui joue avec les Astros, c'est pas un bon frappeur, il frappe pour 120. Mais il a un méchant bras. C'est un des meilleurs pour framer le pitch, un des meilleurs pour contrôler, tout ça. Mais d'un mineur, si tu fais juste framer, t'as pas de bâton puis tu cours pas, ben ça marche pas, là, j'imagine, là, pour un jeune, pour vous autres. Il frappait Maldonado dans le temps, là, quand il était jeune, puis quand il était dans les mineurs.
Il a sûrement été un frappeur dominant toute sa vie.
Exact, vieux. Exact. Fait que je pense qu'on met trop d'importance sur ce qu'on voit dans le pro, puis on se fie à ce qu'on voit, puis on prend les stats qu'on parle à la télé au lieu de parler de d'autres choses, de du whip, puis des qualités à battre, puis de prendre notre temps pour arriver quelque part. T'sais.
C'est bon pour les suppers de famille, les statistiques, mais ça appartient pas à ce groupe d'âge-là. Exactement. Les statistiques, tu l'as dit, ça appartient aux professionnels. Puis l'autre chose aussi que le recruteur professionnel va pas parler, là, c'est comment tu frappes à 5 heures dans le BP, là, dans la pratique au bâton. Là. T'as beau en sortir 25, il n'y a personne qui se fait repêcher parce que tu es bon dans la pratique au bâton. Fait que ça, c'est une autre affaire aussi qu'il faut démentir un peu, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu entends play ball? C'est comment que tu joues qui compte?
Ouais.
Bien plus qu'un, ce qu'on dit en anglais, un 5 o'clock hitter, où tu es bon dans la pratique au bâton, mais quand tu arrives dans le match, tu as un gros zéro, tu passes dans le vide, tu ne seras pas repêché non plus. Là. Fait que,
ça attire l'œil. Ouais. Si tu fais une pratique au bâton, la balle voyage, là, c'est sûr que là, il y a comme un zoom.
Oui, on va regarder.
Ouais, si dans la pratique au bâton, tu ne te fais jamais, la balle ne sort pas du champ intérieur, je t'annonce que les chances, ça se peut que. Quand le dépisteur, c'est le temps de la toilette, ça se peut que quand ça arrive à ton tour au bâton, c'est là que c'est la toilette. Ça se pourrait, là, tu sais.
Ouais. Mais après, tes 3 strikeouts, parce que t'as souligné dans le vide, là, il va dire « OK
». Ou ce que les stats, tu dis, ça peut être intéressant, c'est si on a une saveur collective d'une ligue, d'une situation. Tu sais, nous, on va s'en servir peut-être au niveau développement. Et puis, je t'ai envoyé un petit tableau ce matin, là, mais on était un peu serré dans ton horaire, Jeff. On n'a pas pu le voir, mais c'est un tableau des dernières années de niveau Media 3 où on a calculé le nombre de buts sur balle qu'on donne par match, puis versus le baseball professionnel. Le baseball professionnel, je pense qu'on donne 33.24 le but sur balle par joute, les deux équipes ensemble. Puis nous, au niveau Media 3, on n'est pas loin de 9. Là, on n'est pas loin du trip du baseball majeur. Donc, évidemment, on est moins précis, on est plus jeune. C'est correct. Ça fait partie de la game un peu au niveau du 17U3, si tu veux. Mais une statistique qui s'est améliorée énormément, qu'on a depuis 2-3 ans, c'est le first pitch strike. Donc, le premier lancer qu'on lance pour une prise. On est à 58-59, pas loin de 60%, comme dans le baseball pro. Okay. Donc, ces chiffres-là nous disent quoi? Qu'on lance une première prise au même rythme que le baseball professionnel, méchante bonne nouvelle. Mais vu qu'on donne 3 fois plus de buts sur balle que dans le baseball pro, ça veut dire que notre lancé numéro 2 et numéro 3 est horrible. Ça très clair que nos receveurs, avec une avance d'une prise, ils doivent s'installer trop sur un coin de marge pour pas défier le frappeur. Puis là, évidemment, la balle va pas là. C'est une deuxième balle, une troisième balle. Puis on vient de perdre les frappeurs avec ça.
Marc-Antoine Bérubé. Marc-Antoine Bérubé avait une stat hyper le fun qu'il prenait avec nos joueurs. Là, puis c'est là qu'on a eu nos meilleures séquences. Là. C'est le A3P, l'action en trois pitches. D'obliger qu'il se passe une action en dedans de trois pitches. Strikeout en trois pitches, roulant, ballon, balle frappée. Faut que tu t'en sortes en trois lancers. Fait que là, ça presse nos lanceurs de lancer des prises. Ça les oblige nos receveurs à ne pas être trop piqués sur un coin. La seule statistique qu'on regardait, c'était l'action en trois pitches. Fait que même s'il partait balle 1, les deux prochains pitches, il faut que tu sois dans ce strike zone. Pitch celui que tu veux, il faut que tu sois dans ce strike zone, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait une balle frappée, puis on s'en sort. Tu baisses ton pitch count de lanceur, puis on avait des récompenses en lien avec ça. Puis je m'en suis rendu compte après une semaine, j'ai dit que non, ça va donc bien. Puis là, je regardais les objectifs des lanceurs qu'on avait cette semaine-là, c'était A3P. Je me suis dit, Béru, c'est quoi ça, A3P? Action en trois pitches. Ça, c'est une garde ça à temps plein. Faut tout le temps la tenir parce que ça, c'est le fun. Là, les games, ils roulent. Puis les lanceurs ont embarqué là-dedans. Puis honnêtement, là, ça a changé la perception totale de notre année. Puis on a fini l'année en force. Puis c'est une année où on a commencé, je pense, 0-8 dans Junior Elite. On a fini 9-8 ou 8-8 dans Junior Elite. Juste à cause que là, on a changé le mindset de nos lanceurs à hey, let's go. On arrête de vouloir chercher les strikeouts, on évite les buts sur balle, puis on met de l'action le plus tôt possible dans le match. Je trouvais ça super brillant.
Ouais, je trouve ça super intéressant, puis on a des bons commentaires sur Facebook, là, dont un de Patrick Gagnon qui dit « Ah, les maudits parents, on est donc ben tannant. »
Sauf toi, Pat.
Ouais, sauf toi, Pat. Mais pour vrai, je suggère qu'on en reparle à un moment donné. Je suis sûr qu'on peut en parler beaucoup plus. On a parlé beaucoup des frappeurs, des statistiques de moyenne au bâton. Tu sais, on peut aller un peu partout avec ça. Mais Sylvain, super intéressant comme d'habitude. Juste avant de quitter, je rappelle aux gens qu'on a une page Facebook du show du matin précisément. Donc, tu sais, je vous invite à aller écrire des choses, commenter les photos. On va mettre des vidéos, on met du stock là en masse pour notre petite communauté show du matin. Puis on est aussi disponible sur les réseaux, toutes les plateformes audio à partir de midi, en fait. Fait que la journée même, ceux qui veulent l'écouter dans l'auto, tout est disponible sur les Spotify, Apple, toi, tu connais ça. Sylvain, les Spotify de ce monde, puis tout
complètement.
Complètement, t'es un habitué. Écoute, merci Sylvain d'être là encore ce matin. Une belle demi-heure, je pense. Max Lamarche n'est pas avec nous ce matin pour des raisons de garderie, mais je pense que t'as bien... C'est ça, exactement. Un frappeur suppléant par excellence. Merci tout le monde d'être là. Ouais, Pascal Jean qui dit abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci d'être là, tout le monde. Merci, Max. On se revoit la semaine prochaine, Max. Puis Sylvain, merci. On se revoit bientôt.
Bonne journée.
Merci tout le monde. Salut.
Bye-bye.
De la famille H2O Web Media.